VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 en universel. Nous sommes lundi 8 janvier 2018. Au sommaire. Au Sénégal, la rébellion casamançaise condamne et dément son implication dans l'assassinat de 13 jeunes ce week-end. Le gouvernement décrète 2 jours de deuil national.
Nous étions très avancés dans le processus de paix et on a été surpris de voir une telle brutalité et une telle ignominie.
En Côte d'Ivoire, reprise du procès d'une dizaine de gendarmes soupçonnés d'avoir voulu renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara en 2012. En République démocratique du Congo, 5 activistes du mouvement Filimbi toujours en détention à Kinshasa depuis le 30 décembre. Le pape François appelle à une intégration des réfugiés avec leur identité religieuse dans la société européenne. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Sénégal, la rébellion indépendantiste du mouvement des forces démocratiques de Casamance a condamné le massacre samedi de 13 personnes dans le sud du pays. Un acte perpétré par des hommes armés inconnus. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le Sénégal observe aujourd'hui et demain un deuil national décrété par le président Macky Sall. Sur son site d'information, le MFDC a condamné le massacre samedi de 13 personnes. La rébellion indépendantiste demande aux autorités sénégalaises d'orienter leur enquête vers des responsables administratifs et militaires locaux. Le mouvement les soupçonne d'être à la tête d'un réseau de coupes clandestines et de ventes illicites du bois, de teck. Le teck est un bois précieux recherché surtout pour la fabrication de ponts de bateaux. La rébellion lie ce massacre à un conflit entre des scieries locales dont la concurrence a instauré une atmosphère délétère entre les employés. Le mouvement dit continuer dans sa dynamique d'ouverture au dialogue pour une issue heureuse au conflit casamançais vieux de 35 ans.
Et nous y reviendrons également dans la partie magazine. La reprise ce lundi à Abidjan du procès d'une dizaine de gendarmes soupçonnés d'avoir voulu renverser en décembre 2012 le pouvoir d'Alassane Ouattara. Au nombre des prévenus, l'ex-commandant de l'escadron blindé de la gendarmerie, Jean-Noël Abéi. Les accusés risquent la prison à perpétuité. À Abidjan, le point avec Georges Ibrahim Tunkara.
Ils sont 16 au total, gendarmes et civils, dans le box des accusés. Ils sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. En clair, ils sont accusés d'avoir mené le 23 décembre 2012 une attaque contre le principal camp de gendarmerie d'Abidjan, le camp d'Agban. Une opération qui devait conduire au renversement du président Ouattara. Tous, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, Jean-Noël Abéi, ex-patron du groupement de l'escadron blindé de la gendarmerie ivoirienne, nie les faits qui leur sont reprochés. « Je suis un officier loyal. Pendant plus de 15 ans, je me suis consacré à la défense de l'autorité de l'État. Je ne suis pas un putschiste », se défend Jean-Noël Abéi. Mais il y a ces preuves brandies par l'accusation, comme cette vidéo enregistrée en avril 2012 et dans laquelle le colonel Abéi, alors réfugié au Ghana, s'autoproclame chef de l'État après avoir dissous au passage toutes les institutions de la République. Jean-Noël Abéi ainsi que le maréchal des logis Félix Sokla, considéré comme l'un des cerveaux de cette attaque de décembre 2012, et les 14 autres prévenus encourent la perpétuité s'ils sont reconnus coupables. Verdict attendu en fin de semaine au palais de justice d'Abidjan. Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique.
Au Niger, un tribunal militaire a renvoyé au 23 janvier le procès de soldats poursuivis dans un putsch présumé en décembre 2015. Eric Menerekiza.
Le tribunal militaire a reporté le procès à la demande des avocats des prévenus. C'était à marge de la première session ouverte aujourd'hui dans un camp de la gendarmerie à Niamey. Une dizaine de militaires sont concernés. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Assoumi Massoudou, avait soutenu détenir suffisamment de preuves, notamment des échanges de SMS et des correspondances. Le président Mahamadou Issoufou avait affirmé le 17 décembre 2015 qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée pour justifier l'arrestation de 12 militaires, 3 douaniers et une dizaine de civils. Parmi les militaires figurent le général Souleymane Sallou, ancien chef d'état-major, le colonel Idi Abdoudan Awa, commandant de la base aérienne de Niamey, le commandant Naré Maïdoka, chef du bataillon d'artillerie de Tillabéri, Issoufou Oumarou, commandant d'une force spéciale logée à la présidence, et le capitaine Amadou Chekaraou, autre responsable d'une unité d'élite basée au nord de la capitale. Fin mars 2017, le juge en charge du dossier avait libéré une dizaine de civils, dont des opposants, bénéficiant d'un non-lieu partiel.
En République démocratique du Congo, 5 activistes d'un mouvement opposé au maintien au pouvoir du président Kabila sont toujours détenus à Kinshasa depuis plus d'une semaine. Leur avocat, qui a donné l'information, dénonce une détention irrégulière. Ces membres du mouvement Filimbi ont été arrêtés le 30 décembre par des agents de l'Agence nationale de renseignement. En Afrique du Sud, 61 personnes sont décédées de la listériose, une infection d'origine alimentaire depuis un an. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. Un bilan précédent faisait état de 36 morts et 727 cas ont été confirmés depuis janvier 2017. La listériose, maladie infectieuse due à la bactérie Listeria, se transmet le plus souvent à l'homme par l'intermédiaire d'aliments contaminés. Un étudiant a été tué au Darfour dans l'ouest du Soudan lors de manifestations contre la hausse du prix du pain. Des protestations ont eu lieu dans les régions en conflit du Darfour et du Nil Bleu, ainsi que dans la capitale Khartoum, où des manifestants ont brûlé des pneus et bloqué des routes. La police a répondu par des tirs de gaz lacrymogène. Le récent doublement du prix du pain, consécutif à la décision du gouvernement de confier les importations céréalières au secteur privé, a suscité un vif mécontentement au sein de la population. 10 migrants ont péri et plus d'une soixantaine d'autres ont disparu samedi et dimanche au large de la Libye, selon un nouveau bilan recueilli par plusieurs organismes auprès des survivants. Il y a au moins 40 à 50 disparus, dont 15 femmes et 6 enfants, selon les témoignages des rescapés. Selon l'OIM et l'OHR, les migrants qui se trouvaient à bord de ce canot venaient de Gambie, de Guinée, de Sierra Leone, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun et du Nigeria.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé la fin en 2019 d'un statut spécial qui protège plus de 200 000 Salvadoriens résidant aux États-Unis. Il leur protège donc d'expulsion. Cette décision est considérée comme un nouveau signe du durcissement de la politique migratoire américaine. Ce statut de protection temporaire qui permet de travailler légalement sans titre de séjour avait été instauré en mars 2001 à la suite de l'arrivée massive de réfugiés salvadoriens après 2 tremblements de terre dévastateurs. Dissensions au sein du Conseil de sécurité sur les manifestations en Iran qui ont fait au moins 21 morts et de nombreuses interpellations. Les 15 membres se sont réunis vendredi sur demande des États-Unis, mais le ministre iranien des Affaires étrangères a dénoncé l'initiative américaine et il n'a pas été le seul. Anastasie Toudiech.
Une autre gaffe de politique étrangère de l'administration Trump, a tweeté Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, soutenu par la Russie, la Bolivie, l'Éthiopie ou la Guinée équatoriale. L'ambassadeur russe a estimé que c'est à l'Iran de régler ses problèmes, dénonçant une ingérence dans les affaires intérieures de ce pays. La situation ne menace pas la stabilité régionale, a ajouté Wu Haiteo, ambassadeur adjoint chinois à l'ONU. De son côté, la représentante américaine à l'ONU, Nikki Haley, a jugé que le régime iranien bafoue les droits de son peuple en dépensant pour l'armement. Pour le Royaume-Uni, une réunion du Conseil de sécurité sur l'Iran est tout à fait légitime. Le président français Emmanuel Macron, soutenu par la Suède et le Pérou, a plaidé quant à lui la modération. Il a mis en garde contre un risque de guerre si les discours belliqueux des États-Unis, d'Israël ou de l'Arabie saoudite se poursuivent. Téhéran et Riyad sont à couteau tiré depuis plusieurs années.
L'Iran met en garde la communauté internationale sur une possible sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que la communauté internationale doit se préparer à une possible sortie des États-Unis de l'accord d'ici quelques jours. Le président américain Donald Trump dénonce régulièrement l'accord et a refusé à la mi-octobre de le certifier, le qualifiant de l'un des pires jamais conclus par les États-Unis. Le Koweït a annoncé qu'il accueillera le mois prochain une conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak en coopération avec la Banque mondiale et le secteur privé. Le vice-ministre koweïtien des Affaires étrangères a dit que malgré les blessures du passé, une référence à l'invasion irakienne du Koweït en 1990, son pays avait le devoir moral, humanitaire et arabe de soutenir son voisin. La stabilité de l'Irak, c'est la stabilité du Koweït et de la région, a-t-il déclaré. Et puis un Serbe de Bosnie a été arrêté en Allemagne. Il est soupçonné d'avoir participé à l'arrestation de plus d'une centaine de civils qui ont ensuite été exécutés lors de la guerre de 92-95. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on retrouve Eric Manelakiza, cette fois-ci c'est pour nous présenter la page éco.
Les principales économies émergentes d'Afrique se sont beaucoup endettées au troisième trimestre de 2017. Le poids de la dette publique a connu une forte évolution en Égypte, au Nigeria, Kenya, Ghana et en Afrique du Sud. L'Institute of International Finance dit que l'essentiel dans l'endettement de ces pays est le fait des gouvernements. La dette globale des gouvernements, des ménages, des sociétés financières et non financières a atteint le record de 230 milliards de dollars à la même période. Selon la Banque mondiale, en 2017, 60% des jeunes âgés de 15 à 24 ans dans le monde sont au chômage. Cette catégorie a constamment augmenté en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. L'inclusion sociale, économique et politique reste essentielle pour insérer la jeunesse dans le marché du travail, car le chômage nourrit les mécontentements et les troubles sociaux et politiques. Enfin, une voiture intelligente et intuitive sur les marchés mondiaux à partir de 2019. Byton dévoile demain l'automobile du futur à Las Vegas au salon de l'électronique. Ce véhicule sera doté d'un écran panoramique consacré à la navigation et au divertissement. Il inclura une connexion 5G et de multiples fonctions d'intelligence artificielle et sans pilote. Avec une autonomie électrique de plus de 500 km, la recharge de la batterie se fera en 15 à 30 minutes. Après la Chine en 2019, ce modèle sera lancé en 2020 aux États-Unis et en Europe à un prix d'environ 45 000 dollars.
À présent, la page de sport avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
C'est officiel et signé Coutinho et Barcelone.
En effet, l'ancien joueur de Liverpool qui est devenu samedi le troisième footballeur le plus cher de l'histoire, tenez-vous bien, 120 millions d'euros la signature, plus 40 millions de bonus selon la presse. Coutinho s'est engagé jusqu'en 2023 lors d'une cérémonie aujourd'hui au Camp Nou. Philippe Coutinho a signé au FC Barcelone. Le Brésilien aura pour mission de faire oublier son compatriote Neymar. Il a déclaré que cette signature était un rêve et un honneur.
Autre pépite européenne, Harry Kane à Tottenham.
Oui, Tottenham ne peut pas espérer retenir Harry Kane sans faire d'efforts financiers. C'est ce qu'a estimé aujourd'hui son entraîneur Mauricio Pochettino. Selon la presse britannique, Kane, qui a signé en 2016 un nouveau contrat qui court jusqu'en 2022, reste un joueur modestement payé, seulement 6 millions d'euros annuels. C'est peu au regard des salaires de la Première Ligue. Les récentes louanges de Zinedine Zidane ont fait naître en Angleterre la crainte de voir l'international partir pour le Real Madrid dans un proche avenir.
Saison blanche ou presque pour Andy Murray en tennis.
Oui, l'ancien numéro 1 mondial Andy Murray vise un retour sur les courts pour la saison sur gazon disputée à partir de juin après son opération à la hanche droite subie en Australie. L'Écossais, absent du circuit ATP depuis 6 mois, avait été contraint la semaine dernière de déclarer forfait pour l'Open d'Australie.
Et enfin en NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, les Lakers de Los Angeles ont retrouvé le chemin de la victoire après 9 défaites consécutives en surclassant Atlanta 132 à 113. À l'ouest, San Antonio et Oklahoma City ont en revanche mordu la poussière. Les Spurs sans Tony Parker ménagé, ni Kawhi Leonard à nouveau blessé. se sont inclinés de justesse à Portland, 110 à 111. Le Thunder, lui, est tombé de haut à Phoenix, 114 à 100. Enfin, les Knicks de New York se sont imposés à Dallas, 100 à 96. Ils signent leur 19e victoire de la saison. Ils se rapprochent des places qualificatives pour les playoffs.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Et on commence par le Sénégal qui observe deux jours de deuil national aujourd'hui et demain, après l'assassinat de 13 jeunes en Casamance, une région en proie à une rébellion vieille de 35 ans. Une tuerie qui intervient alors que le processus de paix a beaucoup progressé ces dernières années. Le mouvement des forces démocratiques de Casamance a nié toute implication dans ces meurtres. De Dakar, la correspondance de Seydina Abagay.
La violence a ressurgi en Casamance au moment où on s'y attendait le moins. Cependant, Salou Sambou, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, affirme que cet événement dramatique ne remet pas en question le processus de paix.
Nous étions très avancés dans le processus de paix et on a été surpris de voir une telle brutalité et une telle ignominie. Maintenant, il faut attendre pour voir qui a pu commettre cette bévue et pourquoi. Parce que nécessairement, il y a une cause. Donc, il faut être persévérant, être patient et faire en sorte que ça ne puisse pas impacter négativement sur le processus de paix. Et je ne pense pas, parce que le président lui-même s'est prononcé, dit que ça n'a rien à voir avec le processus de paix qui va continuer.
Amadou Saraba, ancien correspondant de l'agence de presse sénégalaise à Ziguinchor, rappelle que des événements similaires s'étaient déjà produits il y a quelques années dans la même zone.
Généralement, c'est des périodes très douloureuses. Il y avait eu une attaque de ce genre. C'était à Diagnon. C'était, je me rappelle, le 21 novembre 2011. 10 jeunes coupeurs de bois avaient été massacrés à quelques kilomètres entre la frontière bissau-guinéenne. Mais le jour, on a assisté à des scènes vraiment terribles parce que les populations avaient accusé le choc.
L'ancien gouverneur Salou Sambou estime qu'il est essentiel de renforcer la sécurité dans la partie sud du pays afin de rassurer les populations.
Mais en fait, il faut qu'on renforce la sécurité au niveau de la Casamance parce que c'est la zone malade du Sénégal. Et c'est là où les djihadistes peuvent entrer. Ils peuvent même, ça peut leur donner des idées avec ce qui s'est passé. Ça peut leur donner des idées et ils peuvent s'approcher. Nous ne savons même pas qui est qui.
Face aux multiples accusations, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance s'est démarqué de cet acte et a fermement condamné ces violences. En attendant les conclusions de l'enquête, le président de la République a décrété deux jours de deuil national en mémoire des victimes. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Situation précaire dans la région de Paoua, en Centrafrique, où 35 000 personnes ont été déplacées par des violences récentes entre ex-Séléka et RJ, ayant fait des dizaines de morts. La ville de Paoua voit arriver tous les jours de nouvelles personnes fuyant leur village incendié. Pour plus de détails, Nathalie Barge a joint le président préfectoral de la jeunesse de Louampende, Vianney Ngabara.
Ces derniers temps, dans la sous-préfecture de Paoua, il y avait une attaque des éléments de Séléka contre les éléments de RJ dans les sous-préfectures, c'est-à-dire que les communes périphériques de Paoua. Et pendant ce conflit, il y avait plusieurs morts et il y avait aussi plus de 2000 maisons qui ont été incendiées. Il y a aussi présentement à Paoua, nous avons presque même 35 000 déplacés qui sont là, qui vivent dans des conditions précaires, qui n'ont aucune assistance. Et jusqu'à l'heure actuelle, nous avons plusieurs personnes dans le village qui sont en train de venir dans la localité de Paoua.
Comment sont-elles soutenues justement ces personnes si elles n'ont pas d'assistance humanitaire?
Jusqu'alors, il n'y a aucune assistance. Parce qu'il y avait à peine deux jours, il y a le ministre de la Défense, celui de la Sécurité, ils étaient venus, ils ont tenu une réunion à Paoua. Et jusqu'alors, il n'y avait personne qui s'occupe de ces déplacés. Donc, certaines vivent dans les familles d'accueil et d'autres se retrouvent dans des écoles.
Et qu'en est-il de la situation sécuritaire aujourd'hui dans la région ?
Présentement, il y avait, à Pawa Centre, il y avait les troupes militaires qui faisaient la patrouille et dans les périphériques, dans les communes. Il n'y avait même pas de patrouille. Donc, ces personnes qui se retrouvent là-bas, ils ont fui leur maison parce que leurs maisons ont été pillées, brûlées. Donc, ils sont tous au niveau des Pawa. Donc, la situation sécuritaire est vraiment très, très, très précaire. Il y a plusieurs femmes, des enfants qui souffrent, des femmes enceintes. Les femmes sont en train de vivre dans des conditions difficiles. Les enfants, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas les hôpitaux. Parce que les hôpitaux sont brûlés, les écoles sont brûlées. La situation est vraiment très, très grave.
D'après vous, les forces de sécurité donc, ne sont pas du tout dans ces villages pour sécuriser ces lieux actuellement?
Aucun force de la sécurité nationale qui est dans ces villages-là. Parce que vous voyez, Pawa se trouve vers la frontière entre le Tchad. Donc, Pawa n'est pas loin de Tchad. Donc, vous voyez que la frontière est vide. Il n'y a aucune sécurité qui est dans cette région-là. Donc, il y a seulement la force de la MINUSCA qui est basée seulement à Pawa et dans les périphéries, dans les villages, aux frontières, il n'y a personne, il n'y a aucune sécurité.
C'était le président préfectoral de la jeunesse de Luampende, Vianney Ngabara, joint à Pawa, en Centrafrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le pape François a reçu ce lundi l'ensemble des ambassadeurs accrédités au Saint-Siège pour le traditionnel discours de vœux. L'occasion pour le souverain pontife de faire le point sur les grands dossiers internationaux. Jacques Aristide a joint le père Janvier-Marie Gustave Yameogo du secrétariat pour la communication du Vatican.
Il a souligné que c'est une belle coutume. Le pape a insisté sur les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qu'il a qualifié de base d'une diplomatie multilatérale. Et il a rappelé aussi les objectifs du Saint-Siège, à savoir favoriser le bien-être spirituel et matériel de la personne humaine et la promotion du bien commun. Mais je voudrais insister sur deux aspects principalement. C'est la promotion de la vie et la défense du droit à la vie. Et le pape a souligné que des nouveaux droits sont arrivés suite aux bouleversements sociaux de 1968. Et on en est venu à instaurer des formes modernes de colonisation idéologique des plus forts et des plus riches au détriment des plus pauvres et des plus faibles. Il insiste même sur des droits violés, à commencer par le droit de la vie, la liberté et l'inviolabilité de chaque personne humaine. Et il évoque notamment les enfants rejetés avant de naître, les personnes âgées considérées comme un poids, les femmes violentées, les victimes de la traite. Il insiste sur la promotion d'un droit à la santé pour tous en favorisant l'accès aux soins à des prix accessibles. Ensuite, le deuxième point sur lequel je voudrais insister est également l'urgence de réelles politiques de soutien aux familles. Parce qu'on sait comment, surtout en Occident, la famille est considérée comme une institution dépassée. Et malheureusement, a commenté le pape François, on préfère des liens fugaces à la stabilité d'un projet définitif.
Il a également fait un tour d'horizon des points chauds de la planète, y compris des régions d'Afrique. Qu'est-ce qui préoccupe précisément le Saint-Siège en ce qui concerne le continent africain?
Il a effectivement tout un paragraphe concernant le continent africain et il appelle la communauté internationale à ne pas oublier les souffrances de nombreuses parties du continent africain. Spécialement, il a cité le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo, la Somalie, Nigeria, la République centrafricaine, où justement, il insiste, le droit à la vie est menacé par l'exploitation abusive des ressources, par le terrorisme, par la prolifération de groupes armés, par des conflits persistants. Et il ne suffit pas de s'indigner face à tant de violences, il faut plutôt que chacun, dans son domaine propre, œuvre activement pour éradiquer les causes de la misère et pour construire des ponts de fraternité, conditions fondamentales d'un développement humain authentique, a dit le pape. Il a évoqué l'Afrique effectivement aussi en matière de migration, en saluant les efforts et l'engagement de nombreux pays en Afrique qui font des efforts pour accueillir les migrants à leurs frontières. Et cela, je pense que c'est une bonne chose de le souligner parce que souvent on voit les migrants qui viennent vers l'Europe, vers l'Occident, mais on oublie la migration intérieure, interne en Afrique même. Et le pape salue les efforts des peuples pour accueillir et intégrer ces personnes réfugiées et migrants.
C'était le père Janvier-Marie Gustave Yameogo du secrétariat pour la communication du Vatican.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder.
Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the back.
Voilà, merci à Georges Léonard Sagnot qui a choisi ce titre Thunder de Imagine Dragon, voilà, qui met fin donc à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alfredo Santos qui était à la console. Abdourahmane Dia, il est à la présentation. Restez en compagnie des programmes de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Dans le cadre des efforts du gouvernement américain pour améliorer la santé de tous les Ougandais, l'Agence américaine pour le développement international USAID a lancé récemment une nouvelle initiative de 28,3 millions de dollars pour renforcer les services de santé dans la région d'Acholi. Ce projet de 5 ans appelé l'intégration régionale de la santé pour améliorer les services dans le nord de l'Ouganda, Acholi, Rite Acholi, permettra au district de santé du nord de l'Ouganda de fournir de meilleurs services médicaux aux Ougandais. En collaboration avec les partenaires locaux, l'initiative Rite Acholi augmentera la disponibilité des prestataires de soins de santé, améliorera l'accès aux médicaments et aux produits de base, favorisera le fonctionnement et l'entretien efficace des équipements et améliorera la gestion des services de santé. De plus, l'initiative favorisera l'adoption de comportements sains en sensibilisant les personnes, les fournisseurs et les collectivités en vue de réduire les retards dans les recherches de soins et les obstacles à l'utilisation des services. L'USAID a attribué le projet Rite Acholi à University Research Co. LLC, une ONG de la santé qui travaille depuis longtemps en Ouganda. Cette initiative fait partie de l'investissement annuel du gouvernement américain d'environ 500 millions de dollars dans le secteur de la santé en Ouganda. Les États-Unis sont fiers de travailler avec leurs partenaires l'Ouganda pour améliorer les soins de santé et le bien-être du peuple ougandais.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.